Radio Okapi.
Bonjour à toutes et à tous, Gisèle Cage à la présentation. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Radio Okapi. Voici le grand titre du jour. Le président Félix Tshisekedi ordonne aux responsables des institutions publiques de réduire drastiquement leurs dépenses pour renforcer le soutien aux forces de défense dans l'est de la RDC, annonce faite hier en conseil de ministres. Environ 1100 miliciens du groupe d'autodéfense Zaïre ont choisi de se désarmer pour contribuer au développement de l'Ituri, le processus de désarmement auquel les combattants ont adhéré dans le cadre du processus de paix a débuté hier. La guerre imposée par le Rwanda paralyse l'économie du Maniema. Depuis la prise de Goma lundi dernier, cette province dépendante de Goma par ses produits essentiels est coupée du reste du pays et les vols sont suspendus. Pierre Waswalila Tongue, directeur provincial de la FEC Maniema, en parle dans ce journal. Il est notre invité. Le président de la République exige aux institutions publiques de l'État ainsi que leurs animateurs à une réduction de leur train de vie afin d'apporter plus de soutien aux forces de défense de la RDC. Il a insisté lors du dernier conseil des ministres hier vendredi que l'objectif est de dégager des économies qui permettront d'octroyer une prime exceptionnelle aux militaires, policiers et les patriotes volontaires Wazalendo engagés dans les combats dans la partie est de la RDC. Ainsi pourront-ils voir leur pouvoir d'achat et accès aux soins de santé améliorés. Le président de la République a par ailleurs souligné la nécessité de leur renforcement en équipement. On écoute à ce sujet Patrick Mouyaya dans un extrait du compte rendu que nous propose Billy Yvan Lutumba.
Le président de la République a engagé le gouvernement et son cabinet à lui soumettre dans les 72 heures des mesures rigoureuses de réduction de train de vie consistant en des coûts par palier et devant être opérées sur les frais de fonctionnement et les interventions économiques de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement, du pouvoir judiciaire ou encore des institutions d'appui à la démocratie. Au-delà des efforts spontanés, le coupe devrait également porter sur les rémunérations des mandataires publics, des membres des cabinets politiques, du pouvoir judiciaire et ceux des institutions d'appui à la démocratie. Par ailleurs, toutes les missions et évacuations sanitaires à l'étranger non essentielles doivent être suspendues. Il en est de même pour les subventions non essentielles à accorder à certains organismes publics ainsi que d'autres acquisitions pour les institutions publiques judiciaires et assimilées. Doivent également être suspendues pour une durée de 12 mois les augmentations salariales, les corrections des grades et les mécanisations des agents publics de l'État autres que les militaires et policiers, sauf évidemment dérogations spéciales.
Au Congo central, le gouverneur de province exhorte ses administrés à soutenir les forces armées et le commandant suprême. Grâce Kwanga Maswangi Bilolo appelle le fils et filles du Congo central à rester vigilants et à signaler tout mouvement suspect aux services de sécurité. En réponse à l'adresse du président de la République du 29 janvier, le gouverneur encourage également le jeune de la province à s'enrôler massivement dans l'armée nationale. Nous l'écoutons au micro de Nana Plus Riche Mambou.
Nous nous faisons l'obligation d'inviter toute la population du Congo central à observer ce qui suit. 1. Garder allumée la flamme du soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et au commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2. Demeurer vigilant et dénoncer tout mouvement suspect auprès des services de sécurité et de l'ordre ou des autorités politico-administratives le plus proche. 3. S'abstenir de poser tout acte de vandalisme ou de violence. 4. Encourager la jeunesse à faire preuve de patriotisme en s'enrôlant massivement dans l'armée. 5. Garder une pensée pieuse à l'endroit de nos concitoyens qui ont versé leur sang à l'occasion de cette agression rwandaise. Par ailleurs, nous réitérons notre message de compassion et de solidarité envers nos compatriotes de la partie est de notre pays, spécialement à ceux du Nord Kivu, meurtris par les affres de l'agression rwandaise. Ensemble, nous disons la patrie ou rien.
Sachez que l'incursion de l'armée rwandaise et de rebelles du M23 à Goma, dans le Nord Kivu, a entraîné la mort de 700 personnes et blessé 2800 autres. Un pillage généralisé des entrepôts a également été signalé. Ces informations ont été communiquées lors du point de presse du porte-parole du secrétaire général de l'ONU, tenu hier à New York. Selon un rapport d'évaluation de l'OMS, plusieurs blessés reçoivent des soins dans des établissements de santé. Plus de détails avec Billy Yvan Lutumba.
Ces chiffres devraient augmenter à mesure que de plus amples informations seront disponibles, souligne le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Sur le plan humanitaire, le rapport d'OCHA et d'autres humanitaires fait état de l'augmentation des personnes déplacées se trouvant dans les zones de Boulengo et Lushagal en périphérie de la ville de Goma. Si ici les services d'eau et de santé sont toujours opérationnels, malgré les conditions désastreuses, l'accès à l'eau potable reste coupé à Goma, obligeant les populations à se servir de l'eau non traitée du lac Kivu. Il y a donc crainte d'épidémie de maladies d'origine hydrique. Autre aspect des conditions de vie actuelles dans cette partie du pays, plus de 300 000 personnes décidées et déplacées se retrouvent ailleurs. Là, il manque presque de tout. Pas d'abri, de nourriture, d'eau potable ni d'assistance médicale. L'urgence en assistance s'impose donc, renseigne le porte-parole. Lors de ce point de presse, la question des droits de l'homme a été mentionnée par le porte-parole parmi des inquiétudes. Se référant à la déclaration du haut-commissaire aux droits humains, il y a lieu d'être préoccupé par le fait que cette dernière escalade de la violence pourrait accroître le risque des violences sexuelles liées au conflit. Il est fait mention d'exécutions sommaires perpétrées par le M23. Dans les zones contrôlées par le groupe armé au sud Kivu, comme à Minova, le M23 a occupé des écoles et des hôpitaux, a expulsé des personnes déplacées des camps et a soumis la population civile à la conscription et au travail forcé.
Du côté des autorités congolaises, les dégâts seraient effroyables dans la ville de Goma. En évoquant le bilan, la ministre d'État et ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba, parle des milliers de morts, tout en soulignant qu'il est encore difficile de dresser un bilan définitif. Nous l'écoutons dans cet extrait proposé par Jacques-Yves Moulima.
En ce qui concerne le nombre de morts que nous déplorons, vous allez comprendre qu'avec la volatilité du contexte, il a été très difficile de chiffrer cela. Nous sommes dans le regret de constater quand même que nous parlons, quand il s'agit des morts, de milliers de morts. Certes, l'accès à la presse, l'accès aussi aux autorités a été justement limité et mis à l'épreuve parce qu'on se retrouvait dans un contexte de combat actif dans beaucoup de zones et de combat dans un contexte urbain, ce qui a rendu le travail extrêmement difficile aussi aux humanitaires, aussi aux soldats de la paix, et donc qui veut dire que maintenant nous sommes peut-être dans un contexte qui va peut-être nous permettre de mieux constater le dégât quand même effroyable de cette attaque du Rwanda sur la République démocratique du Congo et sur les populations civiles congolaises et les casques bleus des Nations Unies et les soldats de la paix de la SADC.
Dans les territoires de Lubero, au Nord Kivu, des coups de feu ont retenti la nuit dernière dans la localité de Ngazi, à environ 60 km de Beni, à la frontière du territoire de Lubero. Ces tirs résultent d'affrontements entre deux groupes armés rivaux paniqués. La population a fui vers la localité voisine des Cantines. La tension et la psychose règnent ce samedi dans cette région où l'on redoute une reprise des combats entre ces deux miliciens. Marc Marofimbo pour des précisions.
Des sources locales rapportent que tout est parti de l'attaque par un groupe armé non identifié d'une position des miliciens de l'Union des Patriotes pour la Libération du Congo, IPLC, volontaire au désarmement. Il était alors 22h locales ce vendredi 31 janvier. Des tirs à l'arme lourde et légère ont été entendus pendant plus de 2 heures, indiquent nos sources qui précisent que le camp des miliciens de l'IPLC d'Ngazi a été réduit en cendres. Prise de panique, les populations des localités telles que Chelega, Katere, Kitara, Ndiapanda, Masiolo et Mbambwe ont commencé à fuir leur milieu. Certains habitants ont pris la direction des cantines et d'autres se sont dirigés vers Kinshasa. Ce samedi matin, une psychose régnait toujours dans la région où la population craint les représailles de l'IPLC. Le bilan de cette attaque s'établit à un milicien de l'IPLC tué. Son corps a été déposé à la morgue de l'hôpital général de référence de Mabalako ce samedi matin. La société civile et les autorités locales appellent la population au calme et demandent à l'armée de protéger la population. C'est la troisième attaque du genre dans la région en l'espace d'un mois après celle de Mandelia et Masoya, des localités situées à cheval entre les territoires de Beni et de Lubero. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
À Kalemi, le réseau des femmes des médias du Tanganyika refait intensifie ses efforts pour combattre la prolifération de fausses informations sur les réseaux sociaux. Selon la coordonnatrice de cette ONG qui s'est exprimée aujourd'hui sur Radio Kapi, les réseaux sociaux sont devenus une source majeure de désinformation. Les membres du REFEMET ont été formés pour détecter les fausses informations et alerter rapidement les utilisateurs. Josaphat Marquis, coordonnatrice du REFEMET, est au micro de Paulin Munanga.
Depuis un moment, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de messages qui viennent comme de fausses informations. Nous avons fait appel à CARE International qui est venu nous former sur le fact-checking, c'est-à-dire comment détecter une mauvaise information sur les réseaux sociaux. Maintenant, chacun peut avoir son téléphone. Avec son téléphone, il a un compte Facebook, Google, WhatsApp et consorts. À travers son compte-là, s'il voit une publication de ses amis ou bien les publications que le réseau nous propose, souvent, il peut directement activer les stratégies selon la formation. Et une fois qu'on intègre ces stratégies de vérification, automatiquement sur cette page-là, la page que la personne est en train de lire, on note faux. Faux, c'est en rouge d'ailleurs et en majuscule. Automatiquement, nous remarquons que cette information est une fake news. Alors, en ce moment-là, on fait la capture. C'est tout le monde qui s'est fait maintenant journaliste. Or, il y a des principes pour informer. On parle toujours du traitement de l'information. Vérifier les sources avant de présenter une information. Mais pour les réseaux sociaux, c'est on ramasse, on donne. On est des vecteurs des fausses informations. On partage même.
Ce journal se poursuit sur Radio Kapi. En Ituri, le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire et stabilisation a officiellement lancé vendredi le désarmement d'environ 1100 miliciens du groupe d'autodéfense Zaïre. Ces miliciens ont rejoint le processus de paix il y a 2 semaines. La cérémonie s'est déroulée à Mabanga, à environ 50 km de Bunia. Dans les territoires de Djougou, les ex-combattants ont reçu des cartes de démobilisation pour reprendre leurs activités quotidiennes en attendant le soutien du gouvernement pour leur réinsertion dans leurs communautés respectives. Reportage Isaac Remoyopé.
Plus de 50 combattants de la force d'autodéfense Zaïre ont reçu des cartes de démobilisation à la première journée de ce processus qui va se poursuivre pendant environ 2 semaines à Mabanga. Environ 1200 anciens miliciens ont adhéré à ce programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire, précise son bureau en Ituri. Ces démobilisés se disent lassés de la guerre et se sont engagés pour la promotion de la paix et du développement de leurs entités respectives. Ils ont exprimé leur joie de retrouver leur famille et de reprendre leurs anciennes activités, agriculture, élevage, exploitation de l'or en attendant leur réinsertion sociale. Le coordonnateur national du PDD-RCS a rassuré ses ex-combattants de la détermination du gouvernement de les accompagner jusqu'à la fin du processus pour une paix durable dans cette province. Tanga Tita.
L'heure est venue de tourner la page de la violence et d'écrire ensemble un avenir de prospérité. Le gouvernement et ses partenaires sont à vos côtés. Je rends hommage à mes frères qui aujourd'hui ont fait le choix d'arrêter la violence et de choisir le chemin de la paix.
Signalons que tous les groupes armés en Ituri ont déjà adhéré à ce processus et attendaient son effectivité dans la province. Cependant, ils demandent au gouvernement d'assurer la sécurité de la population contre les menaces des forces étrangères dont les M23 et les ADF. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Les jeunes de Lubumbashi sont vivement encouragés à renforcer leurs liens avec leurs élus pour développer leur communauté. Ce message a été réitéré vendredi lors d'une séance de sensibilisation organisée par l'Association pour les femmes et les enfants dans le cadre de la 2e phase du programme d'engagement civique de l'ambassade des États-Unis en RDC. La séance a réuni des jeunes et des conseillers communaux de Lubumbashi, Kampemba et Annexe. Plus de détails avec Aslan Mbala, coordonnateur de l'association, au micro de Jean Gandou.
Cette 2e phase vise à outiller le jeune âgé de 18 à 35 ans sur l'éducation civique en vue de renforcement de leur engagement citoyen et leur participation pour améliorer les relations entre les autorités et particulièrement les élus avec le jeune pour améliorer la prise en charge des déshydratats de la population. Le programme est exécuté dans 15 villes du pays et à Lubumbashi, nous avons déjà mené 4 activités, dont une session sur les notions des bases sur l'éducation civique où nous avons formé 40 jeunes et nous avons participé au lancement officiel le 23 janvier 2025 par Madame l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Madame Bissou Tamline, qui a lancé les programmes à partir de Kinshasa. Nous avons mené un échange avec 8 conseillers municipaux, avec 2 jeunes, ensemble avec les jeunes, pour qu'ensemble on puisse définir des mécanismes qui peuvent améliorer la prise en charge des déshydratés de la population au niveau de leur municipalité. Comment on peut améliorer la relation entre les jeunes et les autorités municipales. Nous avons mené une autre activité, une formation sur la citoyenneté et les valeurs démocratiques, une formation animée par le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, présentée par son conseiller socio-culturel et par Madame la chef de division de la jeunesse du Haut-Katanga.
Actualité internationale.
Au Pakistan, 18 paramilitaires ont été tués et 3 autres grièvement blessés dans une attaque au Baloutchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, ont indiqué ce samedi à l'AFP, la police et plusieurs responsables locaux. Un véhicule transportant des paramilitaires du Frontier Corps non armé à proximité de la ville de Mangochar a été visé par des coups de feu tirés par 70 à 80 assaillants armés qui avaient bloqué la route, a indiqué à l'AFP un responsable de la police sous couvert d'anonymat. Ces tirs ont tué 17 des passagers et un paramilitaire venu leur porter secours, a-t-il ajouté, confirmant des informations des sources locales.
L'invité.
La guerre dans l'Est, notamment à Goma, paralyse l'économie du Maniema, cette province dépendante de Goma pour l'approvisionnement en produits manufacturés et de première nécessité est coupée du reste du pays depuis la prise de Goma par le M23 lundi dernier, entraînant la suspension des vols. Dans une interview accordée à Radio Kapi, Pierre Waswalila Ntongue, directeur provincial de la FEC Maniema, explique que le prix de produits ont grimpé en flèche. Certains commerçants préfèrent même stocker leurs marchandises pour les revendre plus cher plus tard. Pierre Waswalila est notre invité et s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Waswalila Ntongue, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
À quel niveau la situation sécuritaire au niveau de l'Est de notre pays, notamment à Goma, impacte les opérateurs économiques du Maniema?
Madame, la situation qui s'est passée à Goma est très alarmante. Comme vous le savez, la ville de Goma, c'est un carrefour des affaires au niveau de l'Est. Tout d'abord, qu'il faut signaler que les transactions à 80% se font entre Kindu et Goma. Alors, comme il y a cette guerre qui frappe la ville de Goma, les vols commerciaux sont suspendus. Il n'y a pas d'évacuation des marchandises ni vers Kindu ou vers Goma. Les opérateurs économiques ayant des stocks très limités ne savent plus comment desservir leur clientèle. Alors, à ce niveau-là, les marchés au niveau local commencent déjà à s'échauffer. Il y a aussi les opérateurs miniers qui évacuent leurs minerais à partir de Goma. Il y a certains qui avaient déjà les stocks à Goma, ils ne savent pas comment exporter vers l'étranger et avoir des devises. Il y a les autres qui sont à Kindu, qui détiennent des minerais au niveau de leurs entrepôts. Ils ne savent pas les évacuer vers Goma. Et à ce niveau aussi, la situation est très catastrophique. On ne sait pas comment faut tourner l'activité économique au niveau de la province du Maniema, madame.
Cela, si on te comprend bien, a des conséquences énormes au niveau du Maniema. Ici, la ville de Kindu, c'est que les opérateurs économiques sont asphyxiés.
Effectivement, pas seulement les opérateurs économiques. Ce sont les opérateurs économiques qui sont en train de desservir la ville de Kindu. Et quand eux n'ont pas de marchandises, cela affecte directement la population qui est les consommateurs. Alors, comme solution que nous pouvons envisager, c'est d'appeler les autorités à pouvoir intervenir urgemment pour des routes, aussi pour la voie ferrée.
Qu'est-ce que les opérateurs du Maniema, qu'est-ce qu'ils achètent à partir des Goma notamment?
Je peux vous citer les produits comme les produits pharmaceutiques, les produits manufacturés et voire même les produits alimentaires.
Et pendant ce temps ici, c'est-à-dire il y a des magasins, il y a même des boutiques et pharmacies qui sont presque vides.
D'ailleurs, c'est ce que je devrais vous dire parce que je viens d'avoir un entretien avec un certain nombre de nos membres qui œuvrent dans le secteur commerce général, pharmaceutique et alimentaire. Ils ne savent pas comment desservir la population. Il y a cela, si la situation perdure, ils vont carrément fermer leurs magasins.
Et comment est-ce que vous faites que vous comptez gérer cette situation pour qu'il pas vraiment un impact grave sur la population.
Bon, de notre double mission, d'abord nous sommes une chambre de commerce et syndicat patronal, c'est-à-dire nous allons plaider auprès des autorités politico-administratives de la province et nationale de façon à prendre des mesures qui s'imposent pour qu'on ait quand même d'autres voies alternatives, notamment la réhabilitation de la voie ferrée qui nous relie avec la province de la Tchopo, aussi la régularité, on ne peut pas l'oublier, la régularité des vols Kindu-Kinshasa. À cela, ne pas oublier la réhabilitation de la route Kindu-Kisangani. Et nous allons aussi sensibiliser nos membres de bien se comporter pendant ces moments, parce que les consommateurs, ce sont leurs frères. Il ne faut pas que certains profitent pour appliquer des prix illicites, parce que quand ils appliquent ça, ils vont s'exposer aux infractions de l'économie nationale, qui va procéder incessamment à la vérification des structures de prix et les contrôles de stock.
Vous les appelez à la responsabilité pendant qu'eux aussi n'ont pas des marchandises, ils ne se contentent que de ce qu'ils ont.
Oui, madame, ils vont se contacter de ce qu'ils ont. Pour cela, le problème ne va pas se poser, parce que la bonne femme ne livre que ce qu'elle a. C'est pourquoi nous disons que pour cela, qui ont encore des stocks conséquents dans leur, parce que le problème n'a pas frappé tout le monde au même moment, pour ceux-là qui détiennent encore des stocks conséquents, qu'ils puissent bien se comporter comme des patriotes, de pouvoir vendre ces marchandises-là à leurs compatriotes à des prix abordables. Il ne faut pas que certains profitent de la situation de guerre pour commencer à appliquer des prix illicites tels que je vous l'ai dit, madame.
Monsieur Wassoli Lantongue, merci.
À moi de vous remercier, madame Florence.
Pierre Waswali Lantongue, directeur provincial de la FEC Manima, était interrogé par Florence Kizalunga. Fin de ce journal sur Radio Capi, à la mise en onde d'Eps Vita. Coordination Jacques-Yves Moulima et à la présentation Gisèle Cage. Restez connectés avec nous sur WhatsApp via le lien disponible sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. Bonne continuation de nos programmes sur votre radio.